RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Un jour de repos qui se transforme en cauchemar pour Ivan Basso. Le coureur italien souffre d'un cancer des testicules. Il l'abandonne pour aller se faire opérer. Demain est un autre tour de la montagne quasiment jusqu'aux Champs-Élysées. Cyril Guimard sera là à 18h15. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon à 20h avec vous au 32-16. Paris-Nice, c'est du vélo, c'est aussi du foot. Pour nous ce soir, le Paris Saint-Germain, un souvenir pour Salvatore Sirigu. Le gardien italien pourrait quitter le club. Nice, c'est le nouveau club de Valère Germain. Le milieu de terrain de Monaco est prêté au club voisin. Le rugby, ça se joue aussi à 7 et les deux équipes de France, femmes et hommes, sont qualifiées pour les Jeux Olympiques de Rio. Jonathan Logel sera en direct avec nous. Dans la série Sports Olympiques, je voudrais une combinaison, un casque et une arme. Les championnats du monde d'escrime commencent aujourd'hui à Moscou et l'escrime française est redevenue redoutable. On en parle avec le DTN de l'escrime française. Allez, on regarde toute l'actu sport avec Martial Fernandez. Bonsoir Martial.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Alors journée de repos sur le tour et une très mauvaise nouvelle pour Ivan Basso.
Le coureur italien qui souffre d'un cancer des testicules, il l'a appris aujourd'hui à la mi-journée après avoir passé des examens médicaux. Hier soir, le coéquipier d'Alberto Contador abandonne. Fred est dans les tapots pour RMC Sport. Bonsoir Fred.
Bonsoir à tous.
Fred, cette annonce a jeté un coup de froid sur cette journée de repos.
Oui, c'est presque un classique ici à Pau. La journée de repos nous réserve pas mal de surprises et pas souvent des bonnes. Ces dernières années, il y avait eu Rasmussen qui avait quitté le tour maillot jaune sur le dos. Vinokourov positif aux transfusions dans la foulée. Et puis il y a deux ans, le contrôle de Frank Schleck, un stimulant. Aujourd'hui, c'est effectivement Basso, 37 ans, qui a créé les mois. L'Italien, double vainqueur du Giro, a annoncé en début d'après-midi qu'il souffrait d'un cancer des testicules comme Lance Armstrong en 1997, lui qui avait été le dauphin de l'Américain en 2005 sur le tour et rattrapé par l'affaire Puerto en 2006. De là à rapprocher la maladie de Basso à sa consommation de produits interdits, il y a un pas que l'on ne franchira pas. L'Italien coéquipier de Contador a expliqué tout à l'heure aux côtés d'un Espagnol ému aux larmes qu'il ressentait des douleurs depuis une chute sur la cinquième étape en direction d'Amiens. Ce sont des examens complémentaires effectués ce matin qui ont révélé la présence d'une tumeur chez Ivan Basso, l'Italien qui est actuellement en route en direction de Varese à Cassa pour entamer un traitement dès que possible.
Merci Fred, la course qui reprend donc demain sans Basso. Aujourd'hui, les coureurs sont allés faire des courtes sorties entre 1h et 1h30 de vélo avant la première étape de montagne. Demain, Tarbes, la Pierre Saint-Martin, 167 km. Le col de Soudé pour finir qui est classé hors catégorie, c'est 15 km de montée à 7,4% de moyenne avec Chris Froome maillot jaune et très serein avant la grande bagarre.
C'est une étape importante demain. C'est la première arrivée au sommet. Tout le monde va regarder ça comme un premier test pour les deux semaines à venir. Mais je suis content d'être dans la position dans laquelle je suis maintenant, car je ne vais pas devoir reprendre du temps sur quelqu'un d'autre. Je suis dans la position où je peux juste rouler et c'est aux autres coureurs d'attaquer, de bouger, de dévoiler leur jeu.
Chris Froome avec Mathieu Dalzovo. Froome qui perdra un des hommes forts de son équipe Sky la saison prochaine. C'est l'Australien Richie Porte qui a annoncé son départ en fin d'année.
Le Tour de France et la montagne qui arrive, on en parle avec Cyril Guimard dans quelques minutes maintenant sur RMC. Le PSG a présenté sa première recrue d'été, ça y est.
Tout beau, très élégant Virginie. Kevin Trapp, l'ancien gardien de but de Francfort, face à la presse aujourd'hui avec un grand sourire et son contrat de 5 ans. L'Allemand a même joué ses premières minutes hier avec Paris sans encaisser de but lors d'un match amical face à une équipe de 3e division autrichienne. Et quelque chose nous dit que Trapp est bien le numéro 1 dans l'esprit de l'entraîneur Laurent Blanc, surtout quand on écoute Olivier Létang, le directeur sportif parisien, qui nous parlait de l'avenir de l'autre gardien Salvatore Sirigu.
On tient à rendre un hommage appuyé à ce que Salvatore, ou par rapport à ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, tout ce qu'il a porté depuis son arrivée en 2011, puisque ça a été un des premiers joueurs à rejoindre le projet du Paris Saint-Germain. On a eu un échange avec Salvatore. Aujourd'hui, sa position n'est pas prise. Si demain, il souhaitait ou il émettait le souhait de pouvoir partir et quitter le Paris Saint-Germain, s'il estimait que son temps de jeu n'était pas suffisant à un an de l'Euro, nous ne sommes pas fermés à un départ.
Voilà, Olivier Létang avec Benoît Boutron et Sirigu, encore en vacances, retrouvera ses coéquipiers du PSG aux États-Unis où l'équipe part mercredi en stage pendant 2 semaines et demie.
Et on en parlera avec Mohamed Bouafsi à 20h30 de cette actu autour du PSG et de ses gardiens de but.
RMC, le Mercato Show.
Bonsoir Damien Gozioso.
Bonsoir à tous.
Le marché des transferts, et ça y est, c'est fait. Morgan Schneiderlin est un joueur de Manchester United.
Oui, il a été acheté à Southampton pour 33 millions d'euros. Il signe pour 4 saisons plus une en option. À United, c'est officiel aussi pour Bastian Schweinsteiger, qui s'est engagé pour 3 saisons. Et autre info qui concerne les Red Devils, Louis van Gaal pense sérieusement à Edinson Cavani pour remplacer Van Persie. Et du coup, Di Maria pourrait servir de monnaie d'échange entre les deux clubs. En Ligue 1, El Shaarawy est à Monaco pour passer sa visite médicale en ce moment, alors que l'ancien monégasque Mounir Obadi s'est engagé avec le LOSC jusqu'en 2017. Et en Italie, pour finir, la Juventus est en train de finaliser l'arrivée de deux joueurs, Sami Khedira et Simone Zaza. Carlos Tevez est lui officiellement transféré à Boca Juniors pour 6 millions d'euros. Un Argentin s'en va et un autre arrive, puisque la Juve annonce aussi le prêt pour 2 saisons de Guido Vadala, grand espoir de son pays, que certains appellent déjà le nouveau Messi.
Merci Damien. Et puis Safet Susic a signé, l'ancien joueur du PSG qui est officiellement le nouvel entraîneur d'Evian depuis ce matin. Attention, les clubs de Ligue 2 sont toujours en colère, ils veulent saisir la justice. Objectif, faire annuler la décision de la Ligue qui prévoit dès cette saison seulement 2 descentes et 2 montées entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Les présidents de Ligue 2 se sont parlé ce matin au téléphone. Pour l'instant, il n'y a pas de boycott prévu pour les premières journées du championnat. Le président du club d'Auxerre, Guy Cotteret.
On a beaucoup échangé sur ce qu'il convenait de faire, notamment répondre à une invitation à le rencontrer du président Legrette jeudi prochain. La seconde décision, c'est d'introduire un référé contre la décision qui était prise par le conseil d'administration. Et la troisième décision, un peu plus formelle, c'est de ne pas participer, de ne pas être présent au tirage au sort de la Coupe de la Ligue jeudi prochain.
Voilà, Guy Cotteret, joint pour RMC Sport par Louis Amar.
Mieux vaut tard que jamais, ça y est, le Real Madrid a enfin rendu hommage à Iker Casillas.
L'histoire ne pouvait pas décemment se finir comme hier, avec les larmes du gardien espagnol tout seul face aux journalistes avant son départ pour le club de Porto. Les supporters madrilènes n'avaient pas apprécié cette séparation glaciale. Alors le club a réagi, Guillaume Lagnel.
Oui, le Real a improvisé, c'est le terme, une cérémonie d'adieu ce lundi pour rendre hommage à Iker Casillas, présent pour l'occasion. Le meilleur gardien de l'histoire du Real s'en va, a déclaré Florentino Pérez, le président, alors que l'on sait qu'il est en froid avec le joueur. Ce même président qui a assuré qu'il voulait garder son gardien. Cette cérémonie était une nécessité pour le Real, plus grand club du monde par son histoire et dont l'image a sérieusement été écornée ce week-end. Impossible en effet d'oublier cette scène pleine d'émotions, mais surtout surréaliste. Hier à Santiago Bernabéu, Casillas en larmes, faisant ses adieux seul, parce qu'aucun dirigeant madrilène n'a daigné soutenir celui qui était au Real depuis ses 9 ans. Un manque d'élégance qui contraste avec la classe de Casillas, pas le moindre mot déplacé à l'encontre du club et des remerciements pour son auditoire composé uniquement de journalistes. En clair, le Real a réagi, mais le mal était sans doute déjà fait. Avec ce feuilleton et l'éviction de Carlo Ancelotti en mai dernier, le Real reste peut-être le plus grand club du monde, mais pas le plus élégant.
Les tennismen français au boulot sur l'herbe du Queen's à Londres, ils sont tous là. Tsonga, Gasquet, Simon, Mahut et Herbert pour préparer le quart de finale de Coupe Davis. C'est le week-end prochain face à la Grande-Bretagne à partir de vendredi. Puis côté nouveau classement ATP, les Français sont groupés. Gilles Simon 11e, Tsonga 12e et Gasquet 13e. Richard Gasquet qui a quand même gagné 7 places grâce à sa demi-finale à Wimbledon.
Et on rejoindra Eric Salio tout à l'heure qui est à l'entraînement des Français à Londres. Demain, le 14 juillet aura un parfum un peu olympique.
François Hollande a invité du beau monde à l'Élysée, Virginie. La maire de Paris, elle a convié des sportifs pour le feu d'artifice, histoire de marquer le coup et d'associer la fête nationale à la candidature de Paris pour les JO 2024, lui Amar.
Oui, après le mouvement sportif fin juin, c'est donc au tour des responsables politiques de prendre le relais symboliquement le jour de la fête nationale, et en particulier donc le président de la République. C'est lui le premier qui avait en novembre sur TF1 soutenu le principe d'une candidature parisienne. Il réaffirmera cet engagement demain en 3 séquences. Il évoquera d'abord le sujet dans son interview de 13h. Il recevra ensuite vers 18h à l'Élysée des personnalités censées porter cette ambition olympique. Tony Estanguet, membre du CIO, et Bernard Lapasset, qui pilote la candidature, seront présents, ainsi que des athlètes comme Marion Bartoli, Christine Aron ou Ladji Doucouré. Troisième temps, plus tard dans la soirée au Palais de Chaillot, sur la place du Trocadéro. Cette fois-ci, l'ensemble des élus de Paris sera là, avec les sportifs, François Hollande et une bonne partie du gouvernement. Tous regarderont le feu d'artifice dans lequel seront glissées des références à l'olympisme et à la candidature de Paris. Puis après l'été, le mouvement sportif reprendra la main. Prochaine étape en septembre avec le lancement de la campagne de financement participatif et la remise officielle du dossier au CIO.
Ça, c'est un sport qui nous rapporte généralement beaucoup de médailles. Les escrimeurs français sont en Russie pour les mondiaux.
Ils veulent voir Rio pour les JO l'année prochaine, mais ils n'avaient rien gagné à Londres il y a 3 ans. 0 pointé. Les Français depuis se sont relancés et il le fallait, d'après le sabreur Vincent Stett, champion olympique par équipe. Lui, c'était en 2008 à Pékin.
Il y a eu une concurrence internationale qui s'est développée, qu'on n'avait peut-être pas anticipé non plus, où plein de pays se sont intéressés à l'escrime, ont importé des maîtres d'armes étrangers pour arriver au meilleur niveau. Donc on s'est repris en main finalement, tout le monde s'est remis au travail. On s'est aussi tous donné les moyens, peut-être les plus anciens, en mettant entre parenthèses les études, le travail, pour être plus présent à l'entraînement également. Puisque dans les autres pays, ils sont professionnels, ils font que ça. Donc à un moment ou à un autre, si on veut être concurrentiel, il faut pouvoir aussi s'entraîner 2 fois par jour. Donc finalement, tout le monde s'est un petit peu pris en main et aujourd'hui, on est de nouveau compétitif et ça fait plaisir.
Vincent, c'était avec Rodolphe Massé. Objectif annoncé, c'est 5 médailles, dont 2 en or pour les escrimeurs français. Ça commence demain avec le sabre individuel hommes et femmes. Il y aura 8 Français demain engagés au total, puisque aujourd'hui, il y a eu 4 qualifiés supplémentaires pour les Bleus.
Et Christian Peters, le DTN de l'escrime française, sera notre invité en direct sur RMC à 19h. Merci, Martial. À tout à l'heure. Vous êtes plutôt mer ou montagne pour les vacances? Ne choisissez pas. Là, vous aurez les deux dans quelques instants. Cyril Guimard nous attend à Pau après la première journée de repos sur le Tour de France.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h18, l'Intégral Tour sur RMC, c'est jusqu'à 21h. Cyril Guimard est bien arrivé à Pau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Oui, effectivement, nous sommes bien arrivés à Pau. Ça a été un petit peu long là-bas de rallier.
800 km, c'est ça, c'est tout.
Bah oui, mais bon, ça a été dur d'abord de quitter la Bretagne et puis de quitter la côte de Cadoudal là-haut à Plumelec. En fait, ça fait quand même un long trajet de nuit, sortant que nous sommes très sollicités depuis le départ. Vous savez, les coureurs sont fatigués, mais nous aussi, on avait besoin de cette journée de repos.
Bien entendu, j'imagine. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser à Cyril Guimard. C'est le 3216 et puis c'est également sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Cyril, on va d'abord revenir sur la triste nouvelle du jour, hein, c'est-à-dire l'abandon d'Ivan Basso. Il souffre d'un cancer des testicules, il part se faire opérer d'urgence en Italie. On a appris ça tout à l'heure.
Oui, mais il se passe toujours quelque chose à Pau. Hein. Pau est une ville où le Tour de France a écrit une grande partie de son histoire, pas obligatoirement la plus belle d'ailleurs, puisque bon, il y a eu entre autres les affaires de dopage que vous connaissez, et puis là, cette nouvelle qui est tombée en fin de matinée de Ivan Basso, qui est donc reparti vers l'Italie pour passer de nouveaux examens, de façon à savoir exactement quelle est l'ampleur du problème qui le touche. Alors c'est toujours un moment difficile, parce que là nous sommes en dehors du domaine sportif, et quand ça touche un sportif, on est toujours un petit peu plus sensible. Mais espérons que tout cela, dans quelques mois, sera loin derrière lui.
Alors, on a Vincent qui nous appelle au 3216. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Cyril.
Bonsoir, vous avez 37 ans, Vincent, c'est-à-dire que vous avez le même âge que Ivan Basso.
Exactement.
Et vous est arrivé la même chose.
Exactement la même chose. C'est vrai que le raccourci des gens autour de nous, c'est normal. T'as fait du vélo, tu t'es dopé, donc t'as un cancer au testicule, parce qu'évidemment, Armstrong, Tour de France, dopage, cancer au testicule, je voudrais pas que pendant le tour, parce qu'on sait très bien que pendant le tour, les affaires de dopage, c'est multiplié par 10 l'ampleur médiatique, qu'on vienne là-dessus. C'est quelque chose qui arrive dans ces âges-là. Et chez nous, les cyclistes, on peut s'en rendre compte tard, parce qu'on pourrait dire comment ça se fait qu'ils s'en rendent compte maintenant. Mais Cyril pourra en parler, on a souvent des irritations avec des grosseurs qui poussent. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on pense que c'est dû au frottement de la selle. Et malheureusement, non, c'est ça. Hein. Après, ça se soigne très bien, il y a 99% de réussite. Et ce que j'aimerais pas, c'est que pour Ivan Basso, qui reste un grand coureur, oui, avec quelques histoires de dopage,
Qu'on fasse un raccourci,
parce que ça n'a rien à voir, c'est quand même... Ça arrive à tout le monde, hein, c'est une tranche d'âge dans laquelle ça arrive, et on fait souvent le raccourci quand c'est le testicule, cycliste, dopage, dû à l'affaire Armstrong, et on se souvient de
Cyril,
tout ça.
Cyril, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire pour l'instant, parce qu'on n'a pas de preuve de ça.
Ben, non seulement il faut pas le faire, mais il est pratiquement impossible de démontrer quoi que ce soit en la matière. Mais je voudrais tout simplement vous parler d'un cas que j'ai bien connu, puisque j'avais 19 ans à l'époque, et j'avais un copain d'école qui a eu un cancer des testicules. Alors, je suis désolé, il n'y avait pas de PO, il n'y avait pas d'hormones de croissance, il n'y avait absolument aucun médicament. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas su le soigner, puisqu'il est décédé, donc à 19 ans de ce cancer. Il est jamais monté sur un vélo, même pour aller à l'école, il habitait trop près de l'école. Donc, faire des raccourcis, pour moi, c'est quelque chose d'intellectuellement malhonnête.
D'accord. Merci beaucoup Vincent d'avoir appelé le 3216. Merci Cyril. On peut dire aussi quand même là, c'est qu'Alberto Contador perd un de ses coéquipiers. Est-ce que ça peut changer quelque chose d'ici la fin du Tour de France ?
Je ne pense pas que ça puisse changer énormément de choses parce que Ivan Basso sort d'un Tour d'Italie, mais depuis quelque temps, il est quand même dans la haute montagne de peu d'efficacité. Son rôle était surtout celui de régulateur de l'équipe, mais je pense que Contador a suffisamment d'expérience, de métier. Il a quelques coureurs également très expérimentés autour de lui. Et l'absence de Basso comme régulateur, je le répète, je pense n'aura pas d'incidence.
Alors quand on regarde les grands favoris de ce Tour de France, que sont Alberto Contador, on vient d'en parler, Chris Froome qui a le maillot jaune sur les épaules, Nairo Quintana qui fait aussi partie des favoris, et puis Vincenzo Nibali, celui qui a gagné l'année dernière. Le mieux armé là, alors qu'on s'apprête à entrer en montagne, et lequel parmi ces quatre coureurs ?
Oui. Question facile, Virginie. Très facile. Et on n'est pas dans les paris.
Non, mais je suis obligée de la poser.
Parce que dans le sport et dans le cyclisme en particulier, on écrit les scénarios après. Donc, tout ce que l'on peut évoquer avant, c'est de la théorie, c'est du virtuel.
Mais il y a quand même une forme qu'on a vue. Par exemple, si je dis que Nibali n'a pas l'air au mieux, lui, par rapport
à quelqu'un... Alors, il y a des tendances, oui, c'est vrai. Et Nibali, personnellement, je considère que Nibali, non pas par le fait qu'il soit à 2 minutes 22, parce qu'il pourrait y être pour d'autres raisons, mais parce qu'à aucun moment, en dehors des pavés, il n'a démontré sa capacité à faire la différence. Il a toujours été un petit peu en retard, il a subi, y compris, et ça rappelez-vous, dans la montée de Mur de Bretagne, où il a quand même perdu sur les autres favoris, 10 secondes en l'espace de 800 mètres. 30 coureurs l'ont devancé au sommet de Mur de Bretagne. Et ça, c'est un indicateur qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Dans le contre-la-montre par équipe, il a été efficace, mais pas décisif. Donc, 2-22, compte tenu de ce comportement, ce que je peux ressentir, je pense que Nibali n'est plus dans le coup pour gagner le Tour. Il pourra peut-être venir sur le podium, mais non. Je crois que ceux qui sont le mieux armés, parce que en fait, ils ont deux cartouches. Ce sont les Movistar avec Valverde qui est à 1,50 et Quintana qui est à 1,59. Et il y a un coureur de grande expérience qui est Valverde, plus ou moins au service d'un coureur qui est sûrement celui qui a le plus de potentiel en haute montagne, Quintana. Ils sont à 1,50, 1,59 de Froome. Ils ont donc des capacités, des possibilités sur le plan stratégique de prendre un petit peu entre tenaille Froome, qui reste quand même le grand favori. Contador ne me semble pas avoir la giclette pour pouvoir faire mal à Contador. Donc reste après Van Garderen, qui est la grande inconnue.
Juste un petit mot sur le 14 juillet. Demain, c'est le 14 juillet. On sait que tous les ans, les Français essaient de se montrer à cette date-là. C'est normal. Là, c'est une première étape de montagne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même quelques Français qui sont capables de la gagner, celle-là ?
Oui, bien sûr, mais les Français arrivent à gagner le 14 juillet.
Oui.
Mais beaucoup moins souvent qu'ils ne perdent le 14 juillet.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
On retient souvent le 14 juillet où ils gagnent, c'est vrai.
Montgoutière, Raymond de Lille, etc. Ouais. Mais souvent aussi parce que c'est des étapes qui conviennent aux Français.
Non, mais je me dis, quelqu'un comme Thibaut Pinot, qui a raté sa première partie de Tour de France, peut éventuellement s'échapper, et on va peut-être là le laisser s'échapper, puisque de toute façon, on se dit maintenant, bon, il gagne gagnera pas le général.
Oui, alors c'est plus difficile dans l'étape de demain. Vous avez 150, un tout petit peu plus de 150 kilomètres, on va dire, de plat. Et puis ensuite, vous avez l'ascension de la Pierre Saint-Martin, 15 kilomètres, ascension brute. Il faudrait que Thibaut Pinot parte dans un coup à plus de 120, 130 kilomètres de l'arrivée. Et encore, faudrait-il qu'on laisse développer cette échappée pour qu'elle arrive avec suffisamment d'avance au pied de la Pierre Saint-Martin, pour que l'un des coureurs échappés, alors donc éventuellement avec Thibaut Pinot, ça peut être vrai avec pour Roland ou Villarmoz également, suffisamment d'avance pour conserver un petit chouïa, un petit quelque chose au sommet. Donc j'ai du mal à croire que demain, compte tenu de l'importance de cette première ascension, une échappée puisse arriver avec suffisamment d'avance au pied de la Pierre Saint-Martin pour que l'un d'entre eux de ces échappés puisse l'emporter.
Oui, ça va faire beaucoup de si. Merci beaucoup,
Cyril. Oui, il y a beaucoup de si, oui.
On va te retrouver dès 19h en compagnie de Fred Adam. Nous, on se dit à demain, hein, à la Pierre Saint-Martin, à l'arrivée de cette 10e étape. On va rester à Pau, direz-vous, puisqu'on va rejoindre Tony Estanguet dans un instant. Demain est un grand jour pour la candidature de Paris au JO de 2024.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h30, Intégral Tour c'est jusqu'à 21h. Il est grand temps de parler des sports olympiques.
RMC France Olympique.
Demain, on est le 14 juillet, ça ne vous aura pas échappé, surtout si vous faites le pont. Et c'est une date très importante pour la candidature de Paris à l'organisation des JO de 2024. Nous sommes en ligne avec l'un de ceux qui portent le projet, Tony Estanguet, membre du CIO, triple champion olympique de canoë. Bonsoir Tony.
Bonsoir.
Alors vous êtes à Pau, c'est the place to be en ce moment pour le sport. Il y a le Tour de France, là bien sûr, qui y passe. Et puis dans un mois pile, c'est la finale de la Coupe du Monde de canoë-kayak, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. On est dans les derniers préparatifs. On est à J-1 mois. Ce sera la finale de la Coupe du Monde. Donc, une Coupe du Monde qui a commencé au mois de juin. Et voilà, l'équipe de France qui est déjà en dernière ligne droite pour se qualifier pour les Jeux de Rio. Donc, voilà, un bel événement du 13 au 16 août à Pau. Effectivement, sur un site emblématique ici sur le Gave de Pau.
Vous y serez vous-même dans un mois?
Bien sûr, ouais. En fait, je dirige ce comité d'organisation, donc c'est un projet qui me tient à cœur. Je travaille dessus déjà depuis un an, donc là, on est vraiment tout excité dans la dernière ligne droite, et je pense que ça va vraiment être une belle fête autour du canoë-kayak.
Alors aujourd'hui, vous êtes à Pau, de même que les coureurs du Tour de France. C'est jour de repos, donc vous ne pouvez pas en profiter aujourd'hui. Peut-être demain, le départ?
Alors malheureusement demain je dois remonter sur Paris puisque comme vous le savez nous aurons aussi la célébration autour de la fête nationale à Paris du projet olympique. Mais c'est vrai que accueillir le Tour de France à Pau, ben c'est toujours un plaisir. Je crois que c'est la 72e fois que le Tour de France passe à Pau, et c'est vrai que c'est un bel événement, un des grands événements que la France organise chaque année, qui donne une belle vitrine de notre expertise en matière de grands événements sportifs et qui nous permet, le cas échéant, de pouvoir prétendre à l'accueil de grandes compétitions comme les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Alors Tony, on va revenir sur ces Jeux Olympiques. Justement, Paris est officiellement candidate depuis le 23 juin, mais demain, ça va être important aussi. On va rappeler ce qui va se passer exactement en ce 14 juillet.
Alors, suite à l'annonce de la candidature française pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 le 23 juin dernier, nos partenaires, que sont la ville de Paris et l'État, ont souhaité demain organiser à l'occasion de la fête nationale un beau moment, voilà, en présence des athlètes français. Donc plus d'une centaine d'athlètes français seront à Paris demain pour ce premier temps de mobilisation où les athlètes français iront à la rencontre du grand public, ce qu'il y aura sur le parvis de la Tour Eiffel, un concert grand public et une rencontre également avec le président de la République à l'Élysée pour commencer à travailler sur la stratégie de mobilisation des athlètes français sur cette candidature.
Alors le but, c'est de montrer que vraiment tout le monde en France est mobilisé.
Oui, le but, c'est de montrer que cette fois-ci, les athlètes français se mobilisent vraiment sur ce projet. Ils étaient présents en force le 23 juin pour annoncer la candidature et ils continuent quelques jours après à s'impliquer en venant rencontrer le chef de l'État à Paris pour échanger justement sur cette stratégie, en ayant une séquence de travail également avec la maire de Paris un petit peu plus tard. Et puis voilà, l'idée c'est de créer comme ça ce groupe d'athlètes français qui vont régulièrement maintenant travailler ensemble pour essayer de mobiliser autour d'eux, d'expliquer, de promouvoir ce projet qui leur tient à cœur, parce que les athlètes français aujourd'hui sont peut-être les mieux placés tout simplement pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils les ont vécus, ils savent ce qu'il faut mettre dans un dossier pour accueillir les plus beaux Jeux. Et ils ont vraiment envie, quoi, de s'impliquer et de se mobiliser.
Est-ce que vous, vous sentez une différence par rapport aux deux candidatures malheureuses qu'on a eues précédemment?
Alors, malheureusement, j'étais pas vraiment très impliqué, moi, sur Paris 2008 et Paris 2012. J'étais encore vraiment en activité et peut-être un peu trop jeune. Nous, en tous les cas, on a vraiment essayé de s'appuyer sur cette expérience passée. Vous savez, les échecs sont les meilleurs moyens de préparer des victoires. On apprend beaucoup de ces échecs. Les sportifs de haut niveau, d'ailleurs, le savent très bien. Hein. Ils ont l'habitude de vivre l'échec comme ça et de corriger des petites erreurs pour progresser et avancer. Et là, je crois que voilà, il y a eu des athlètes qui étaient déjà engagés sur Paris 2008 et Paris 2012, qui se retrouvent engagés sur Paris 2024 et qui ont envie de faire les choses un petit peu mieux, parce qu'il manquait pas grand-chose hein, pour Paris 2012. Hein. Deux petites voix seulement pour être élu, et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on avait déjà une belle candidature sur Paris 2012.
On a l'impression que vous, depuis le 23 juin, vous mangez 2024, vous dormez 2024, vous ne faites plus que ça, franchement.
Oui, c'est vrai que je suis pas mal impliqué sur le dossier, avec le dossier de Pau, parce que dans un mois, encore une fois, on organise ce bel événement à Pau, mais voilà, j'ai cet équilibre à trouver, et c'est vrai que bon, les Jeux Olympiques et Paralympiques, quand même, en France, en 2024, ça a vraiment de la gueule et je pense vraiment qu'on peut les arracher cette fois-ci et je pense que pour notre pays, ça serait vraiment une belle chose.
Merci beaucoup Tony Estanguet d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'Intégral Tour sur RMC et à très bientôt sur notre antenne.
Merci, au revoir.
Et les JO, on continue d'en parler, hein, pas ceux de 2024, cette fois ceux de 2016. L'an prochain à Rio, le rugby français sera bien présent. Les équipes féminines et masculines de rugby à 7 sont qualifiées. Frédéric Pomarel est en direct avec nous de Marcoussis, coach de l'équipe de France masculine. Bonsoir.
Bonsoir.
Maxime Rollin est à vos côtés, un de nos spécialistes rugby. Salut Maxime.
Bonsoir tout le monde.
Alors Frédéric, si je vous dis Rio, là tout de suite, qu'est-ce qui vous vient en tête?
Ben, c'est un rêve de 5 ans que l'on commence à voir un peu plus clairement. Donc ça nous, c'est un grand soulagement, ça nous rassure, et ça nous comble de joie.
Alors donc votre équipe de France à 7 s'est qualifiée hier. Entre le moment où la Fédération française de rugby a décidé de mettre le paquet sur le rugby à 7 pour les Jeux en 2010 et cette qualification, donc hier, qu'est-ce qui s'est passé?
Beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de gamberges, beaucoup d'essais-erreurs, parce que nous sommes partis, comme nous l'avait dit le président Camus, lorsqu'il nous a réunis, David Courtex, entraîneur des filles et moi-même, il nous a dit page blanche pour vous, écrivez l'histoire du 7. Il nous a laissé beaucoup, beaucoup de champs de manœuvre, de disponibilité. On s'est vraiment pris la tête avec David. On a beaucoup, beaucoup travaillé. On a construit beaucoup de choses. Ça a été lent, ça a été difficile, ça a été parfois chaotique. Mais on n'a jamais lâché pendant 5 ans et on est super content d'être récompensé de ça. Mais bon, déjà dans nos têtes, maintenant, on a envie d'autre chose, on a envie de plus.
Justement, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait-il qu'après quelques années de galère, là, l'équipe de France ait gagné ses 3 tournois et enchaîné 18 victoires sur 18 matchs?
Elle s'était préparée spécialement pour ça. Notre objectif depuis 5 ans, c'est les Jeux de Rio, et on savait que notre qualification passerait plutôt par l'étape de zone, donc nous zone Europe, plutôt que l'étape mondiale. Alors les non-résultats sur le circuit mondial ont été pour certains un peu décevants, mais en fait ce n'était, nous, dans notre programmation, que une étape, même si on aurait aimé faire un peu mieux à certains moments et qu'on aurait dû faire un peu mieux à certains moments, mais grosso modo c'était des étapes pour nous. On savait qu'il fallait être prêt là, maintenant. Et on a réussi ce pari. Notre planification a été plutôt bonne. Et puis après, il faut reconnaître aussi que le niveau européen sur ces trois tournois, était un peu plus faible que le niveau mondial. Ça se comprend aisément. Et nous étions donc plus à l'aise dans ce niveau-là. Donc voilà, on a dominé ce niveau européen. En ce qui concerne le niveau mondial, on est encore un peu loin du compte, mais on on essaiera d'y réfléchir un peu plus tard pour trouver les forces et les ressources nécessaires pour ça, pour essayer de progresser dans ce niveau-là. Voilà.
Quand vous dites voir plus loin, vous parlez de quoi comme objectif à Rio, une médaille ?
Mais c'est fou parce que notre objectif initial c'était d'aller à Rio, mais comme l'a dit David Courtex, il m'a dit tu verras à partir du moment où tu seras qualifié, une heure après tu penseras déjà, tu te poseras les questions pour comment choper une médaille à Rio. Et en fait il avait raison, même 10 minutes après déjà j'y pensais. Évidemment si on va là-bas on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de s'intercaler dans le tournoi et dans la compétition. Aujourd'hui, on est très lucide, on sait que nous ne sommes pas les meilleurs mondiaux. Nous sommes loin du 4 majeur, des 4 nations majeures, ça on le sait. Par contre, je connais les forces françaises et je connais les forces de mon équipe. Je sais encore quel manque il peut y avoir et où je peux aller les chercher. Et si j'arrive à ça en un an, je sais que je peux m'infiltrer dans le tournoi et sur un coup, parce qu'il s'agira d'un tournoi sec, on est capable de le faire. À la Coupe du Monde 2013, on n'était pas les meilleurs mondiaux et loin de là. Et on a fini 5e de cette Coupe du Monde et sincèrement on aurait pu être dans le dernier carré juste parce qu'on l'avait préparé de manière spécifique. Et puis on a cette espèce de grinta sur un coup, quoi. On est capable de faire, moi je sais que j'ai une équipe qui est capable de faire sur un coup, qui est capable d'aller chercher. Puis en plus on va rentrer maintenant et il nous tarde vraiment dans la famille olympique, vous en parliez tout à l'heure dans votre émission, il nous tarde de partager toute l'expérience des autres disciplines et je pense qu'ils vont nous apprendre beaucoup et on a vraiment envie avec eux de réfléchir à tout ce qu'on peut faire là en un an pour tenter pas un hold-up, mais pour essayer d'accélérer le processus de retard, le retard un petit peu que l'on a par rapport au majeur, et essayer de trouver 2-3 petites ficelles, 2-3 petites combines pour s'infiltrer dans le tournoi. Je crois qu'on est malin, je crois qu'on peut y arriver.
Merci beaucoup Frédéric Pommarel. Malheureusement, on n'a plus le temps. Maxime, merci d'avoir passé quelques minutes avec nous. On va vous suivre, évidemment, votre équipe de rugby à 7 jusqu'à Rio et à Rio pour ces JO de 2016. On va aussi parler d'escrime dans un instant parce que les escrimeurs eux aussi seront nombreux à aller à Rio. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h45 et l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. On est toujours sur le chemin de Rio.
RMC France Olympique.
Quand on part à Moscou, on y va armé, sabre, fleuret, épée. On a tout ça avec nous. Les championnats du monde d'escrime commencent aujourd'hui. On est en direct avec le DTN de l'équipe de France, Christian Peters. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Rodolphe Massé, notre envoyé spécial à Moscou. Salut Rodolphe.
Bonsoir à tous.
Alors c'est une sorte de veillée d'armes là aujourd'hui, hein, Christian Peters. Vous êtes arrivé vendredi à Moscou. Est-ce que tout se passe bien ?
Oui, tout se passe bien. On commence à être un peu impatient de rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est le cas aujourd'hui. Donc ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. On attend encore un garçon pour une qualification. Puis après, ça devrait être une journée accomplie.
Parce qu'aujourd'hui, ce sont des éliminatoires, hein, Virginie, au sabre homme, sabre dame, pour entrer dans les tableaux finaux. On va dire ça comme ça. C'est ça. Parce que les vraies épreuves qui délivreront les médailles en individuel, ce sera à partir de demain. Sabre homme, sabre dame en individuel. Épée homme, épée dame mercredi. Fleuret homme, fleuret dame. Toujours en individuel jeudi et ensuite auront lieu les épreuves par équipe.
Et on attend des médailles à peu près partout. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un trou d'air dans l'escrime française, on va dire, qui a été symbolisé par le zéro pointé au JO de Londres. Ça, c'était en 2012. Oui. Vous allez nous dire comment on a remonté la pente ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a relevé la tête ?
Je pense que d'abord, il y a eu une prise de conscience évidente de la part de l'ensemble des athlètes et de l'ensemble du staff technique pour se dire qu'on pouvait pas rester comme ça. Donc, après ça, on a restructuré un petit peu tout l'ensemble après le changement au niveau de la Fédération Française d'Escrime, puisque c'est une nouvelle présidente qui a pris ses fonctions après les Jeux de Londres.
Isabelle Lamour.
Voilà. Et tout a été restructuré. On a remanié un petit peu l'entourage des équipes de France avec de nouveaux entraîneurs, avec une nouvelle manière de travailler, et puis je crois que aussi la bonne volonté, l'envie de réussir et la réflexion sur les erreurs commises a permis aujourd'hui de retrouver un peu de sérénité et puis surtout des résultats qui nous mènent vers les Jeux Olympiques, je l'espère.
Je crois que les sportifs, hein, les escrimeurs eux-mêmes, c'est eux qui ont demandé ces changements, qui voulaient que ça bouge.
Oui, tout à fait. On a beaucoup. On a écouté ce qu'ils disaient. Alors effectivement, c'est pas toujours facile de répondre à leurs demandes, bien évidemment. Mais on a essayé autant que faire se peut de nous engager dans cette voie-là, c'est-à-dire une voie qui tenait compte des envies des athlètes et de leur manière de voir les choses, pour recadrer tout ça avec les entraîneurs. Donc je pense que tout ça a plutôt bien pris. En particulier, ils réclamaient dans la préparation, par exemple, des intervenants hors technique. D'escrime comme les préparateurs physiques. On a répondu à leurs demandes petit à petit. Aujourd'hui, tout ça c'est bien intégré et ça fonctionne plutôt pas mal.
Rodolphe, les escrimeurs voulaient aussi ne plus vraiment vivre en vase clos, hein, il me semble.
Oh oui, alors en plus, ça c'était quand même des choses qu'ils réclamaient avant les Jeux Olympiques de 2012. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé avant, on va s'intéresser au présent, mais c'est vrai qu'ils ont été entendus. Christian est le nouveau DTN, il est arrivé avec la nouvelle présidente Isabelle Lamour, il y a aussi un nouveau directeur du haut niveau, et c'est vrai que les athlètes ont été entendus sur plusieurs points. Je vous propose par exemple d'écouter la fleurettiste Astrid Guyard. En général, Astrid Guyard, elle résume très bien les choses, et on va l'écouter tout de suite, Astrid Guyard.
On a été entendu, je pense aussi à la préparation physique qu'on a mis en place aujourd'hui quotidiennement. Ça fait partie de notre planning. Je pense à la mixité. Voilà, les hommes et les femmes s'entraînent ensemble. Aujourd'hui, le fleuret homme s'entraîne avec le fleuret dame et on s'apporte. C'est pas que les dames qui s'enrichissent au contact des hommes. L'inverse aussi est vrai, parce qu'ils y gagnent en termes de concentration, de technique. Nous, on y gagne sur le cardio, sur le fait d'avoir des personnes puissantes en face de nous et sur le sens tactique aussi pour pouvoir les contrer. Donc c'est tout ça qui nous permet de nous améliorer. Après, on a été faire des stages avec les étrangers. On a fait venir les étrangers à nous et c'est ça qui nous a permis de progresser chaque jour.
C'est un bon résumé, hein, Christian Peters.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et en plus, effectivement, Astrid, c'est quelqu'un de réfléchi et qui pense les choses avant de parler. Et je pense qu'elle a très bien résumé les choses. Et on est vraiment dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de sérénité qui ressort un petit peu de ce groupe. Les athlètes sont à la demande. Au début, c'était pas facile, hein, parce que, par exemple, si je prends le cas des fleurettistes et des filles en particulier, le fait qu'elles n'aient pas d'épreuve aux Jeux Olympiques par équipe posait un gros problème dans la cohésion du groupe et l'ambiance. Et elles ont au début pas très bien vécu le fait que l'entraîneur national puisse assurer à la fois l'entraînement avec les garçons et les filles. Et puis petit à petit, pour les raisons que vient d'invoquer Astrid, eh bien elles ont compris que c'était aussi dans leur intérêt et que leur entraîneur du fleuret, le fleuret dames, les abandonnait pas, mais qu'au contraire il cherchait à optimiser un petit peu tout ça. Donc voilà, aujourd'hui le discours d'Astrid, c'est le discours de toutes les fleurettistes et de tous les fleurettistes, et je pense que l'ambiance elle est au rendez-vous et ça motive beaucoup pour la performance.
Christian Peters, ces changements se sont traduits assez rapidement par des résultats, c'est-à-dire que la France a retrouvé son rang.
Oui, alors oui, nous faut rester. Il y a aussi quelque chose que je voudrais noter par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup d'humilité chez les athlètes et chez les entraîneurs. Effectivement, on est conscient en ce moment ça marche bien. Je pense que les autres équipes, les autres fédérations, les autres nations nous regardent autrement. On nous regarde plus en nous disant bah les Français vous êtes arrogants, vous avez l'impression de tout savoir. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce registre-là. On joue tous les moments, on joue l'instant présent avec beaucoup d'envie, et puis on se projette pas mal dans l'avenir. Mais tout ça avec le respect des autres et en pensant qu'on n'est pas les plus forts du monde. Alors effectivement, en ce moment ça marche bien, j'espère que ça va continuer comme ça, c'est important pour nous, et puis qu'on continuera dans cette ambiance qui est très très porteuse et pleine d'espoir pour l'avenir.
Ce dont il faut avoir conscience, Virginie, c'est que l'escrime s'est internationalisé. Il y a des tireurs vénézuéliens, égyptiens qui ont obtenu des médailles olympiques, des médailles mondiales. C'est révolu l'époque, l'Olympiade 2005-2008, où la France marchait sur l'eau et terminait première nation. Il y a eu la mauvaise Olympiade 2008-2012 où la pente était descendante. Aujourd'hui, la pente est plus souriante pour l'escrime française. Ça s'est traduit par les résultats. Tu le disais, Virginie, l'année dernière au championnat du monde 2014, 6 médailles pour l'équipe de France, dont 3 en or. Cette année au championnat d'Europe à Montreux, 6 médailles, dont 3 en or. Voilà, la France a retrouvé un rang. Elle ne dominera plus, la France, le monde de l'escrime comme elle l'a pu le faire par le passé, parce que il y a des nations qui se sont ouvertes à l'escrime, parce qu'il y a des maîtres d'armes compétents, français, italiens notamment, qui sont allés donner leurs conseils dans les nations émergentes de l'escrime mondiale. Mais en tout cas, l'escrime française a clairement relevé la tête. Ça, c'est vraiment une certitude.
Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de maîtres d'armes français qui se sont exportés et qui ont exporté leur savoir-faire. Leur savoir-faire, c'est vrai aujourd'hui, hein, notamment avec les Russes. Mais aussi, moi, je tiens à dire qu'on a des entraîneurs aujourd'hui qui ont les rênes de l'équipe de France et qui sont de très très bons entraîneurs. Je pense en particulier à Franck Boislin et à Hugo Brie, voilà, au Floréum, Franck Boislin et Hugo Brie à l'épée, qui savent manier un groupe, qui savent donner de leur passion, de leur énergie, qui sont vraiment des gars passionnés et des grands techniciens. Et moi, je les soutiens fortement et bec et ongle, et je suis derrière eux en permanence parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont vraiment de grands maîtres d'armes.
Alors, vous l'avez dit, plus d'humilité, un peu moins de domination sans partage, mais en revanche, quand même des objectifs élevés pour ces championnats du monde.
Ben oui, enfin c'est des objectifs qu'on essaie de mettre à la hauteur de nos ambitions et surtout de l'ambition olympique. Effectivement, on a fait des championnats d'Europe à Montreux de bonne facture avec 3 médailles d'or et 6 médailles au total. Si on gardait ce résultat-là aux championnats du monde, on serait ravis vraiment, parce qu'aujourd'hui les championnats du monde sont très importants parce que ils rapportent beaucoup de points pour les Jeux olympiques et on joue aussi. Alors je sais que un garçon comme Hugo Brie joue le moment, et lui, toutes les compétitions, il y va pour gagner, mais comme tous les entraîneurs, mais lui, vraiment, c'est son objectif au championnat du monde à chaque fois. Alors effectivement, on a un regard tourné vers Rio par rapport aux points qu'on pourra récupérer à Moscou pour les Jeux Olympiques, mais effectivement, c'est un enjeu assez important, et si on réalise la même performance que celle qu'on a, qui a vu le jour à Montreux en Suisse pour les championnats d'Europe, ça sera formidable. Disons que aujourd'hui on est sur un objectif de 5 médailles. Si avec 2 titres on sera satisfait, mais je sais que dans toutes les armes les athlètes sont capables de faire beaucoup mieux, et j'espère beaucoup qu'ils réaliseront cette performance pour eux, pour tout ce qu'on a mis autour et pour leur engagement fort et entier dans la performance.
Alors vous venez de parler des Jeux Olympiques de Rio, on va essayer d'être un peu didactique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier?
Faut gagner.
Ben voilà, c'est tout simple finalement.
Ça c'est l'objectif numéro 1. Disons que si on arrive dans le dernier carré, c'est-à-dire dans les 4 équipes restantes, parce que en fait le problème pour les jeux de Rio, c'est qu'il y a des épreuves qui se gagnent où on joue les sélections par équipe, et c'est très important de gagner par équipe, parce que si on fait une grosse performance, c'est-à-dire être dans le dernier carré et monter sur le podium, eh bien on aura trois athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et il y a 2 armes, le Floredam et le Sabre Homme, qui n'auront pas d'équipe aux Jeux. C'est complètement injuste, mais c'est comme ça, c'est des raisons de quota de médailles aux Jeux. Et bien ces 2 armes-là ne pourront qualifier leurs athlètes que sur le plan individuel. Donc ces 2 armes-là vont jouer la carte individuelle à fond, mais toutes les autres équipes vont jouer la performance par équipe, c'est-à-dire gagner d'abord par équipe, monter sur le podium pour qualifier 3 personnes. Et si on réussit à Moscou une très grosse performance, il est bien évident que derrière, eh bien, la qualification sera, pas, je dirais pas acquise, mais fortement engagée. Et ça voudra dire qu'on jouera une sélection et on jouera des places, un classement pour les Jeux qui sera beaucoup moins stressant pour les athlètes. Donc on est dans cette optique-là. Les entraîneurs et les athlètes le savent très très bien, et ils se sont préparés en conséquence sur le plan psychologique.
Merci beaucoup Christian Peters d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral tour sur RMC. DTN de l'escrime française, merci Rodolphe. Bien entendu, on suit ces championnats du monde d'escrime jusqu'à dimanche sur RMC. Rodolphe, tu vas être en direct tous les jours avec nous dans l'intégral tour.
Et avec des médaillés, on l'espère, qui viendront le soir vous faire coucou sur RMC.
Ben, on espère merci. Bien, merci beaucoup.
Merci.
Et ce qu'on suit aussi cette semaine, c'est le quart de finale de Coupe Davis Grande-Bretagne-France. Ça se passe au Queen's à Londres. Eric Salio est déjà sur place après Wimbledon. Salut Eric.
Salut Virginie.
Ça y est, t'as vu les Français s'entraîner déjà?
Mais ils s'entraînent encore. Ils profitent des cours d'entraînement du Queen's Club. Ils profitent aussi du temps, on va dire, relativement stable, parce que ce matin, ils ont dû aller s'expatrier au Centre National d'Entraînement de la Fédération Anglaise, qui est, croyez-moi, rutilant. Donc ils ont tapé en indoor, enfin seulement Pierre-Hugerbert et Gilles Timon, et depuis plus de 2 heures, ils occupent les 2 cours qui leur sont alloués tous les jours ici au Queen's Club de Londres.
Et Richard Gasquet, ça va, il est déjà en forme, lui qui a fait un parcours long à Wimbledon puisqu'il a atteint les demi-finales?
Richard Gasquet, il a passé le week-end à Paris, il est revenu hier soir, mais on n'a pas vu sur les cours d'entraînement aujourd'hui. On nous a dit qu'il était aux soins et qu'il se reposait. Alors peut-être que ça cache quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas tapé la balle sur le gazon du Queens aujourd'hui.
Rapidement, Eric, on a eu le nouveau classement ATP aujourd'hui. Oui. Donc, Gilles Simon est 11e, juste derrière Raphaël Nadal. Joe Wilfried Tsonga, 12e. Richard Gasquet, 13e. Ça nous fait un joli tir groupé, tout ça. Du coup, est-ce que ça a une incidence sur qui joue et quand?
Oui, Virginie, parce que le règlement de la Fédération internationale a changé depuis cette année. Auparavant, on prenait en compte le classement lors de la divulgation de la liste des joueurs. C'était donc il y a une semaine. Et désormais, on prend le classement le plus frais. Et donc, avant, c'était Joe qui était numéro 1. Donc, J repasse numéro 1. Donc, ça veut dire qu'on a deux certitudes. Si Richard Gasquet est aligné vendredi en simple, il jouera obligatoirement contre Andy Murray. Et si Gilles Simon est choisi aussi par Arnaud Clément pour jouer vendredi, il jouera obligatoirement James Ward. Voilà, maintenant, faites vos jeux, mais ce sont des petits détails qui changent quand même toute la stratégie d'équipe, même si, d'après ce qu'on voit à la Virginie sur les cours du Queens, Arnaud Clément prépare déjà avec beaucoup de soin le double. Je peux vous dire que Joe Wilfried Tsonga et Nico Mahut sont alignés ensemble. C'est sûrement un indice, mais ça ne veut pas dire qu'il
Ils ont encore
du temps pour rétablir la stratégie d'équipe.
Merci beaucoup, Eric. On va suivre ça de près, bien sûr. Décidément, les Britanniques, on les clique plus, hein, puisque Chris Froome porte le maillot jaune également sur le Tour de France. Mais bon, lui, il ne s'est pas entraîné. Enfin, si, sûrement, il a dû s'entraîner dans cette journée de repos, Fred Adam.
Ah oui, comme tous.
Comme tous. Ils ne vont pas rester comme ça juste à l'hôtel. Hein.
Ah non, interdit quand on est coureur cycliste. Bien sûr, il y a la famille qui passe. Bien sûr, on se détend un peu et on a droit aux pizzas, par exemple. Mais on a séance vélo imposé. On en parle dans quelques instants avec la Dream Team, évidemment, Tour de France, Thierry Bourguignon, Luc Leblanc et Cyril Guimard. On parlera du repos des guerriers, mais aussi du départ d'un guerrier, d'un équipier, Ivan Basso, qui a annoncé aujourd'hui à Pau son cancer des testicules. Il est équipier d'Alberto Contador et c'est un gros désavantage physique, mais aussi psychique peut-être pour Alberto Contador. On en parle dans un instant.
RMC Intégral Tour.